Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Un cinérama un peu spécial aujourd'hui parce que je serai seul à animer l'émission et mes collègues ont quand même laissé quelques traces. Ce sera le cas de Marine qui a pu rencontrer Bérangère Krief qui est à l'affiche de Adopte un veuf, une nouvelle comédie française dont on se serait finalement bien passé, mais on écoutera quand même l'actrice parler du rapport entre les femmes et l'humour dans les comédies françaises. Et puis nous écouterons quelqu'un qui n'a rien à voir avec cet univers de la comédie, c'est José-Louis Guérin pour l'Académie des Muses, documentaire fiction qui est sorti déjà la semaine passée. Manu, lui, nous parlera du dernier film où apparaît Sacha Baron Cohen, Grimsby, agent trop spécial. Il nous parlera aussi de la galaxie de la terreur, ces cinéramas qui débutent tout de même avec les Ardennes.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Les Ardennes de Robin Pront, thriller, tragédie sociale, film noir. Les Ardennes, le film de Robin Pront est tout cela à la fois. Alors avec un nom pareil, on imagine que c'est belge et on imagine bien. Mais ça n'est pas le côté alors frère d'Ardennes, non, c'est plutôt la veine flamande. Celle de Beled, de Michael Roskam et celle aussi de Félix van Groningen qui a fait dernièrement Belgica et puis aussi La merditude des choses. Et ça, c'est plutôt pour les trognes qu'on peut croiser dans le film. Alors Les Ardennes, c'est avant tout l'histoire de deux frères avec une femme au milieu. Nous arrivons au moment où un cambriolage tourne mal. L'un des frères, le plus âgé, Kenneth, se fait pincer et doit faire ses 4 ans de prison. Au moment où il ressort, l'aîné voudrait reconquérir sa petite amie, mais les choses ont changé sans que personne n'ose lui révéler. Alors il faut dire qu'au contraire de Dave qui est posé, le frère le plus jeune, Kenneth est une vraie tête de pioche avec des relents de bêtises. Même sa mère semble avoir des difficultés à éprouver de la tendresse pour son rejeton qui multiplie les coups de force et les gars. À tel point que les Ardennes du titre leur tend les bras. Ça n'est que dans la troisième partie du film que l'on accède à ce territoire boisé qui semble loin de tout. Alors c'est par une vue aérienne que Robin Pront nous fait entrer dans un univers où la lumière déjà peu présente se fait encore plus rare, où l'humidité est omniprésente. On y croise des sangliers accrochés à des crocs de boucher à l'entrée d'un bar de chasseurs et puis on aura affaire à de sacrées tronches. Curieusement, passer de la ville à la forêt aura été simple car le réalisateur aura réussi à placer ses enjeux dramatiques. Ce qui demeure, c'est le lien qui unit ces deux frères, dont on voit qu'ils se font petit à petit ce lien. Entre Dave et Kenneth, rien ne va plus. Et les Ardennes, un lieu où leur mère les emmenait enfants, car ils y étaient plutôt calmes, cette région boisée devient un révélateur. Lumière atténuée, voire séquences sombres, froideur, humidité, accompagnent le malaise et le thriller des forêts. Les personnages sont campés sans faute avec ce qu'il faut d'exagération. Entre le psychotique amateur de crêpes et le transformiste taciturne, les traits des personnages sont un peu poussés, mais l'univers est si bien posé qu'on s'en délecte. L'opposition entre les deux frères, l'un toujours sous pression et l'autre apparemment calme, promet forcément des renversements. Et puis, les promesses sont tenues. Il y a quelque chose de très shakespearien dans ce film Les Ardennes. Alors, il n'y aurait qu'un bémol, c'est la musique. C'est de l'électro-dance bien moche, bien lourde. Mais sinon, c'est une vraie réussite formelle. À noter que le scénario est l'adaptation d'une pièce de Jeroen Perceval, qui joue le jeune frère, un acteur qu'on a vu également dans Beled et Borgman. Voilà, donc film d'un côté flamand et puis de l'autre néerlandais. Voilà, c'est un peu cette veine du cinéma belge. C'est déjà sur les écrans, Les Ardennes.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Et nous passons à la première interview de cette émission avec Adopte un veuf de François Desania. Alors, difficile de passer à côté de la campagne de pub d'Adopte un veuf. On voudrait nous faire adopter une énième comédie prenant un prétexte bidon, une fille qui déboule chez un veuf et le convainc de monter une colocation. Il faut dire qu'il habite Paris et possède 4 chambres. C'est un peu gâché. Alors là où ça aurait pu être subtil, c'est que la comédie nous laisse entrevoir les ficelles du scénario en convoquant un casting pour garnir cette colocation. Alors les profils déboulent et on se demande évidemment avec qui on va pouvoir bien rire. Et du coup, eh bien, on aurait préféré des personnages un peu plus déjantés que l'avocat en situation de divorce et l'infirmière célibataire. Alors avec ça, André Dussolier, eh bien, fait du Solier, mais évidemment, on le paie pour ça. Aucune prise de risque, on a droit à des clichés qu'on n'a plus envie de voir au cinéma, hein, comme le veuf qui se dévergonde le temps d'une soirée et finit par faire du scooter sans casque. Mais que faisait Sam qui ne boit pas? On ne sait pas. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous propose. Sachant que le naturel quand même de ce médecin à la retraite, c'est un barbecue avec un bon pinard dans sa maison de campagne normande. Alors, un visage porte cette comédie, c'est celui eh bien, de Bérangère Krief, issu du Woman Show et de la série Bref. Il s'agit de son premier rôle au cinéma, qui ne lui vaudra pas un César, j'en doute. Marine l'a rencontrée, elle parle un peu du film, mais très vite, elle parle plutôt d'elle, de son lien au comique. Marine lui demandera aussi si en France, eh bien, on peut maintenant être sexy et drôle.
Il y a de la joie.
Faut vous reprendre, monsieur Jacquin. J'ai la cousine d'un ami, elle a perdu son mari, elle s'est jetée sous un train. Alors faites-moi plaisir, prenez l'annonce, là, sur le tableau.
Bonjour. Je me trouve avec Bérangère Krief qui est ici pour nous parler de Adopte un veuf, qui est finalement ton premier rôle.
C'est carrément mon premier rôle, c'est vrai. Et bah, c'est plutôt cool, avec André Dussolier, j'étais très contente.
Et alors le rôle que tu joues, elle a l'air quand même assez proche de toi, donc c'est une fille qui est très spontanée, très pétillante. Comment tu as pensé ce rôle? Comment tu l'as travaillé peut-être avec le réalisateur François Dezania?
Moi j'ai pensé ce rôle en extrapolant un peu un côté de ma personnalité qui peut être très, très jovial et très positif, mais je trouve qu'elle elle arrive tout de suite, en fait, c'est-à-dire que c'est une immédiateté de cette personne qui ne s'adapte pas à l'environnement dans lequel elle est, c'est-à-dire qu'elle arrive dans l'appartement de ce veuf sans se dire tiens peut-être quelqu'un est triste. Peut-être il y a une ambiance spéciale, chose que moi je ferais dans la vie. Donc je me suis dit c'est génial aussi d'arriver de pas du tout se prendre la tête sur qu'est-ce qui se passe, qui sont les gens, et d'imposer un petit peu son propre état d'esprit, sa propre énergie. Et c'est ça qui me plaisait dans le personnage. Donc je voulais qu'elle soit brute de pomme et que voilà, tout est tranché. C'est où elle est contente, où elle est pas contente. Elle pose ses questions, elle réfléchit pas.
Afin de faire de cette colocation un moment agréable, il est important de respecter quelques règles de base.
Si je pouvais éviter de passer l'aspirateur.
Ah, l'aspirateur.
Et restez pas dans mes pattes. Je vais me taper tout le ménage, c'est ça?
Bah si tu non. peux.
C'est une comédie, clairement. On t'a connu dans la série Bref. Tu es humoriste depuis pas mal d'années. T'as toujours eu cette ADN comique en toi?
Oui, j'ai toujours eu depuis petite, même malgré moi, je pense que je faisais rien un peu ma famille. Je l'ai apprivoisé, j'ai eu envie de faire du one-man show parce que j'ai découvert cette forme d'humour et cette forme d'art en fait, très petite. En fait, j'avais 10 ans, je pense que j'ai découvert chez mes cousins dans le sud la cassette d'Elikaku. Et ça a été un véritable... voilà. Et du coup, voilà, mes parents m'ont emmené voir des spectacles et j'avais cette admiration, puis cette envie que je pouvais même pas expliquer, quoi. D'être seule sur scène à faire des blagues, c'est un projet complètement fou. Et voilà, après j'ai fait des études de comédienne, enfin des cours de théâtre classique, sans trop me spécialiser. Et puis à un moment, je me suis lancée, je me suis dit, allez, on y va, quoi. Donc c'est vrai que j'aime la comédie parce que c'est une vraie. Il y a un vrai rythme à trouver, c'est comme un peu de la musique, quoi. Et avec François Dezania, qui a vraiment cette culture aussi de la comédie, on se dit, voilà, aujourd'hui, on aime faire de la comédie, mais on aime aussi d'autres formes de cinéma, et je ne serais pas contre faire autre chose. Pour l'instant, ça me fait marrer de faire ça, c'est ce qu'on me propose, donc je suis ravie de le faire.
Donc tu vas peut-être être atteinte du syndrome des comédiens comiques, à un moment où ont envie de prouver leur potentiel dramatique, qui vont vers ce genre de rôle.
Moi je crois que le comique a souvent un potentiel dramatique parce qu'il cache justement ça, c'est une hypersensibilité. Ouais, moi j'ai l'impression que parfois c'est comme si j'avais un bouillon de trucs et puis qu'il y avait juste un foulard en satin dessus et puis que quand on l'enlève, paf. Donc oui, il y a ça, je pense que c'est inhérent à la personnalité comique qui fait en sorte que tout soit positif, tout soit joyeux et que non, en fait, voilà, c'est une hypersensibilité. Donc oui, si un jour j'ai un rôle... Puis c'est agréable aussi avec le temps, enfin je trouve dans Adopte un veuf, il y a aussi des moments un petit peu plus durs. Et que j'ai aimé jouer, j'ai eu du plaisir, j'avais peur de ces scènes-là, je me suis dit, est-ce que je suis capable? Et puis non, j'étais très contente.
Vous buvez du lait écrémé, vous plaignez pas de péter après, hein?
Bon,
je me plains pas.
Pour en revenir donc à Bref, il y avait deux personnages féminins centraux. Donc il y avait la fille sexy interprétée par Alice David et la fille marrante donc, que tu interprétais. On a quand même encore du mal en France à associer le sexy et le drôle. Est-ce qu'avec cette nouvelle génération de comédiennes, d'humoristes, est-ce que ça bouge quand même un peu maintenant?
Ouais, ça bouge quand même pas mal. Je trouve qu'on peut quand même être jolie et marrante. Ça fera toujours flipper certains mecs, comme les mecs marrants peuvent faire flipper des filles. Donc c'est égalitaire. Mais moi, je trouve que vraiment la place aujourd'hui, elle est là pour ces filles-là et heureusement quoi. On n'a plus besoin de se grimer, de mettre des perruques et dire qu'on est moche pour être marrante.
Soit ça change. Soit je mets tout le monde dehors.
Moi, je suis d'accord avec vous, Hubert. On est une team.
C'est quoi ce bordel? Du plan Hubert.
Nous sommes vos amis.
En tout cas, je trouve que depuis que je suis là, vous allez beaucoup mieux.
Voilà, c'était Bérangère Krief au micro de Marine. Bérangère Krief, fait partie du casting de Adopte un veuf de François Desania. Et c'est sur les écrans à partir du 20 avril.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Eh bien voilà, une autre comédie dans cette émission Cinérama, mais celle-ci elle est un peu plus costaud, un peu plus scato on va dire. Grimsby, agent trop spécial après Borat, Bruno, le dictateur, eh bien c'est la nouvelle farce de Sacha Baron Cohen. Et eh bien Manu va nous en parler.
Grimsby, agent trop spécial, amateur de bon goût et d'humour subtil, passez votre chemin. Bienvenue dans l'univers de Sacha Baron Cohen, tout entier dédié à la provocation, la transgression et la vulgarité assumée. Ceux qui avaient adoré Borat seront en terrain connu. Un peu trop sans doute, car derrière le comic trash et décomplexé de l'acteur, il n'y a au fond pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette parodie d'espionnage épaisse comme un loukoum. Grimsby paraît même peu inventif à côté d'un de son modèle, Austin Powers, qui ne reposait pas uniquement sur le comique parfois limite de Mike Myers, mais déployait des trésors d'inventivité au terme d'une mise en scène élégante, furieusement pop et référentielle. Le scénario n'est pas en cause, il est complètement idiot et n'est qu'un prétexte pour le comédien de déployer son humour déviant. Mais puisqu'il faut en dire deux mots, voici donc le pitch. Nobby Butcher est un beauf heureux. Entre le foot, les bitures, sa petite amie obèse et ses 9 gamins, il coule le parfait bonheur. Ce qui pour nous spectateurs ne paraît pas toujours évident. Le seul hic dans sa vie est l'absence de son frère dont il a été séparé quand ils étaient gosses. Mais un jour, il retrouve sa trace. Sauf qu'il ignore qu'il s'agit d'un agent secret. Leur retrouvaille se transforme en un gros quiproquo virant à la catastrophe et les voici la cible du gouvernement britannique. Et en parallèle, ils découvrent un gigantesque complot ayant pour but, devinez, allez, je vous le donne en mille, détruire le monde. Remarquez, même dans les films d'espionnage sérieux, la finalité est souvent la même.
Vous êtes qui, vous?
Ton frangin! Ça m'a pris 28 ans, mais je t'ai retrouvé!
Oh mon Dieu.
Il y a 7 milliards d'êtres humains sur une planète qui ne peut en contenir que 5.
Des gens vont mourir si on n'arrête pas.
Je laisserai pas tout seul sur ce coup-là. On y va!
Hier, j'avais une vie normale, pépère. Aujourd'hui, on se bat pour sauver le monde.
Alors oui, on rit, pas tout le temps, mais parfois à gorge déployée, et plus c'est gros, et en dessous de la ceinture, et plus on se marre. Mention spéciale avec la séquence sexe énorme et crade avec l'éléphant. Alors aussi hilarant que vomitif. Mais un air de déjà-vu parasite le film et l'empêche de rejoindre ses modèles de stupidité assumée de Dumb and Dumber à Austin Powers. L'humour bête et méchant, souvent jouissif, est néanmoins parasité par une mise en scène tape à l'œil, gratuite et sans distance de Louis Leterrier, ex-poulain de Luc Besson, à qui on doit les épouvantables Transporteurs ou encore l'affreux remake du Choc des Titans. Finalement, la vraie vulgarité, involontaire sans doute, réside dans l'esthétique ringarde de ce Grimsby, monté comme un mauvais clip et doté d'une photo hideuse. Après, si on n'est pas trop regardant sur ces détails, j'ironise bien sûr, on est en droit de passer un bon moment régressif agréable sur le mode pipi caca trou de balle anal. Alors d'autant que ça ne dure qu'1h25, ce qui est presque un miracle en ces temps un peu compliqués pour le cinéma hollywoodien où un film de moins de 2 heures se fait si rare.
Nom de Dieu.
Voilà, eh bien, je pense qu'il a tout dit, Manu. Hein. C'est effectivement assez régressif, ce film de Sacha Baron Cohen. Ça va parfois très très loin dans le pipi caca. Et à noter alors quelques belles séquences, et notamment Louis Leterrier, effectivement, qui a fait le Transporteur. C'est mis presque à faire du second degré sur sa mise en scène, parce qu'il y a un moment, un pur moment d'action, mais qui devient absolument hilarant. C'est quand l'agent secret, eh bien, on le voit en mission, mais en caméra subjective, avec, je pense qu'en à peu près 1 minute 30, 2 minutes, il arrive eh bien, à tuer une cinquantaine de personnes. Voilà, il monte dans une voiture, il va dans un immeuble, il est dans la rue, il est sur un vélo, un scooter. Enfin, voilà, c'est absolument hilarant. Donc ça, c'est le côté action. Et puis après, il y a le côté quand même pipi-caca avec sa chambre en Cohen qui s'en donne à cœur joie. C'est Grimsby, agent trop spécial, déjà sur les écrans.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, nous allons maintenant écouter José Luis Guérin. C'est la deuxième interview de cette émission. Et là, on n'est plus dans la comédie. Voilà une œuvre singulière réalisée par l'Espagnol José Luis Guérin, à qui l'on doit une fiction remarquée à Venise en 2008, dans la ville de Sylvia. Et la ville en question, eh bien, c'était Strasbourg. Un film où l'on sent l'intérêt que porte le réalisateur à Éric Rohmer. Et puis José Luis Guérin a également été connu pour avoir réalisé en Construction. Le réalisateur a remporté un Goya pour ce documentaire montrant les relations entre paysages urbains et humains. Mais 15 ans se sont écoulés entre ce succès et l'Académie des Muses qui est sortie le 13 avril. Au départ, José Luis Guérin est invité par un professeur de philologie de Barcelone à assister à un cours questionnant la figure de la muse. Alors une des élèves a alors proposé de tourner une fiction autour du sujet où le prof jouerait le rôle du professeur, sa femme jouerait son propre rôle et les élèves, évidemment, resteraient ses élèves. Avec l'Académie des Muses, on navigue alors entre un documentaire et une fiction. Documentaire, car lorsque le professeur de philologie parle des muses et de Dante, eh bien, il nous semble qu'il s'agit d'un vrai cours. Et puis de la fiction, car ce professeur, eh bien, on le voit en dehors de ses cours se poser des questions autour du sujet qui anime l'Académie des Muses, à savoir retrouver la figure de la muse dans notre société. Alors ce professeur souhaite que ses élèves donc se transforment en muses. Il faut bien avouer qu'on est très content de pouvoir s'extraire de la classe, car malgré tous les efforts pour rendre le cours vivant, eh bien, cela reste scolaire. Aussi, on quitte l'université, on quitte même l'Espagne pour aller en Sardaigne, vivre un moment assez étonnant d'ailleurs et très musical, et puis en Italie. Alors le dispositif est en place avec son sujet posé, évidemment c'est très littéraire, un peu politique, et la mise en scène est bien travaillée, beaucoup de dialogues sont filmés à travers notamment des vitres. Nous avons rencontré José Luis Guérin et il nous dit eh bien, quelques mots autour de ce nouveau film, l'Académie des Muses.
C'est un film de fiction, ça c'est très important. Un film de fiction que probablement je n'aurais jamais arrivé à faire sans avoir une certaine expérience dans les documentaires. C'est intéressant parce que les professeurs dans leur vie quotidienne est professeur, oui. Sa femme est sa femme, les élèves sont ses élèves. Hein. Oui. À partir de là, tout est en création fictionnée, mais qu'effectivement il était fait dans l'interaction avec les personnes filmées. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que c'est un film de dialogue très très beau. Je l'ai dit impudiquement parce que je n'ai pas écrit une seule phrase. Tout est un travail à partir de l'improvisation. J'étais séduit par les domaines sur les paroles, la capacité de créer morceaux de vie face à la caméra de ces personnages, de cette communauté littéraire. Et petit, on a construit les films. Il faut créer un morceau de vie face à la caméra. Donc parfois, j'étais l'instigateur, le provocateur pour créer une scène, un morceau vivant. Mais toujours, j'étais amené plus loin de ça ce que j'avais prévu. Et j'étais plein de fois étonné comme spectateur, comme le premier spectateur de ma film. Donc, c'est un film pour moi du côté de la révélation. Ça, ce qui a été passionnant pour moi en tant que cinéaste, c'est que, voilà, une idée que j'ai trouvée pas vraisemblable, l'Académie de Mousse, je peux pas croire à ça, et filmation derrière filmation, il y a des dialogues passionnants autour de ça. Et j'ai dit, tiens, l'Académie des Muses, c'est ça. Oui, je peux croire à ça, parce que ces filles qui discutent un truc de jalousie par un sonnet, pour l'Académie des Muses, c'est là, sont eux. Donc oui, ça existe. Ça, c'est on peut les croire. Donc c'est la capacité du cinéma de rendre croyable ça, ce qui, d'abord, pour moi, il était incroyable. Et donc comment il fonctionne aussi comme prétexte pour que se déroulent des situations qui sont très belles. Parce que théoriquement, on ne parle que de littérature dans ce film. On ne parle que des sonnettes, on ne parle que des façons d'ordonner une bibliothèque, on parle des livres, mais le spectateur a conscience que tout ça, il va au-delà de ça. C'est-à-dire que même si on parle de littérature, on voit qu'il s'agit de deux rapports de pouvoir entre les personnes, de séduction, de jalousie, de manipulation, de motifs qui nous concernent à tous. Au-delà de le phénomène littéraire.
Voilà, ça c'est le chant des bergers sardes qu'on entend à un moment, mais c'est assez fascinant en fait. Alors j'ai parlé d'une mise en scène travaillée, mais je n'ai pas évoqué la forme. José Luis Guérin a tourné avec sa propre caméra et uniquement avec son ingénieur du son. Donc voilà, ils étaient deux pour faire toutes les images. Alors autant dire que parfois l'image n'est pas parfaite, parfois elle disparaît même. Alors on pense à un effet de style, mais le réalisateur a tout simplement préféré le noir à l'imperfection de l'image. Alors c'est peut-être une des critiques que l'on peut faire au film, sa forme est un peu pauvre, mais vu que le réalisateur souhaitait faire ce projet en toute liberté, eh bien il s'agissait aussi de tourner forcément à l'économie. Alors c'est un film bavard, savant, mais aussi réjouissant, surtout quand le professeur qui pose que enseigner c'est séduire, eh bien va se retrouve finalement dépassé par ses élèves. Voilà, l'Académie des Muses, projet vraiment singulier de José Luis Guérin, est déjà sur les écrans depuis le 13 avril.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et maintenant, eh bien, pour cette dernière chronique de l'émission Cinérama, Manu a prévu de nous parler d'une ressortie d'un DVD. C'est celui d'un film des années 80, en 81. C'était La Galaxie de la Terreur.
Pas de sang, pas de chair. Je rêve éveillé.
Pour varier les plaisirs et vu le manque de films de genre en salle, je vais me pencher sur la sortie chez Backfilm d'un petit classique de la SF fauché des 80s, La Galaxie de la Terreur. Le succès mondial d'Alien, le 8e passager de Ridley Scott, engendra un nombre incalculable de dérivés et de remakes déguisés, plus ou moins inspirés. On peut citer En Vrac, Inséminoïde, Créature ou encore Mutant. Mais le plus original d'entre tous, le plus fun et délirant, reste malgré tout La Galaxie de la Terreur, qui bénéficie d'un vrai bon script coécrit par le cinéaste lui-même, Bruce Clark. Pourtant, le début n'augure rien de particulièrement singulier, reprenant sans chercher à innover le canevas du film de science-fiction horrifique le plus conventionnel. Les membres de l'unité spéciale Quest partent en mission pour retrouver l'équipage de la navette Ramus, qui n'a plus donné le moindre signe de vie. Ils atterrissent sur la planète Morgantus et retrouvent le vaisseau vide. Des phénomènes étranges se produisent. Si on est habitué à visionner des séries B qui pompent sans vergogne les grands classiques, on s'attend alors à voir débarquer un monstre de l'espace tentaculaire, comme dans le film jumeau Mutant d'Alan Holzman, visiblement tourné au même moment et dans les mêmes décors. Eh bien, que nenni, La Galaxie de la Terreur propose au contraire de nous immerger dans une ambiance beaucoup plus insinueuse et subtile. L'équipage ne va pas affronter un monstre, mais les terreurs intimes qui sont enfouies en chacun des personnages. Ce qui nous vaut des séquences hallucinantes où les auteurs poussent le délire à son paroxysme, comme le viol d'un membre, il est féminin bien sûr, de l'équipe, par un poulpe géant et bien visqueux qui va littéralement comprimer la victime. Ou encore ce passage très réjouissant où Sid Haig, l'acteur, s'arrache son bras qui prend soudainement vie comme dans Evil Dead 2. Le sujet n'est pas nouveau et sera traité parfois de façon plus sérieuse, comme dans Event Horizon, voire même The Hold de Joe Dante, mais cette série B, nerveuse et limpide, se regarde avec un plaisir intact 35 ans après sa réalisation.
C'est ma propre peur qui m'a attaqué cette fois, mais ça m'a ramené la vie, je pense. Pour combien de temps? Je l'ai compris quand j'ai eu à l'humain. Il n'y a aucune erreur que nous n'ayons créée nous-mêmes. S'il en est ainsi, c'est fini.
Fini, Cabrem ? Ce n'est là qu'un commencement, au contraire.
J'en étais sûr.
Où est-il ? Maudit sois-tu, corps !
Comme beaucoup de productions Corman, La Galaxie de la Terreur a bénéficié d'un budget assez rudimentaire, autour de $700,000, qu'il fallait alors honorer en un temps record. Le résultat reste stupéfiant. Les effets spéciaux, parfois très gore, sont remarquables si on reste encore sensible au latex. Les décors créés par un James Cameron débutant sont ébouriffants d'inventivité et le travail plastique du directeur de la photo nous ramène en plein cœur des 60s quand Mario Bava réalisait l'un de ses chefs-d'œuvre, La planète des vampires, une des inspirations avouées du script de Dan O'Bannon pour Alien. La boucle est presque bouclée. Alors Bruce Clark n'a réalisé que 4 films et La Galaxie de la Terreur demeure son dernier effort. C'est bien dommage car le film possède des qualités visuelles et narratives qui ne sont pas simplement attribuables au producteur Roger Corman. Clark utilise le potentiel de l'histoire et les talents conjugués des techniciens pour livrer une série B jouissive, drôle, excitante d'un bout à l'autre, filmé avec un vrai sens de l'espace et du timing. Le film retrouve par moments, sur un sujet d'ailleurs similaire, la poésie futuriste de Planète Interdite, autre joyau de la science-fiction des années 50, et se permet quelques références amusées et pertinentes à la littérature de genre, Philip K. Dick et Isaac Asimov en tête. Enfin, cette production New World est portée par un casting hétéroclite très curieux. On y croise dans les couloirs colorés des vaisseaux spatiaux ce bon vieux Sidehead, acteur fétiche de Rob Zombie, mais aussi l'improbable Zalman King, comédien du Rayon Bleu et scénariste du film érotique 9 semaines et demie, Erin Moran, qui jouait dans la série Happy Days, qui a dû d'ailleurs être embauché pour sa vague ressemblance avec Sigourney Weaver, et l'incontournable Robert Englund, alors complètement inconnu avant de devenir le gentil alien de V et le fameux Freddy Krueger. Bref, La Galaxie de la Terreur est une excellente production old school qui reste parmi les meilleures réussites du genre encore à ce jour.
Je trouverai un moyen de te tuer. Tu vas payer pour tout.
Tu trouveras peut-être, mais écoute-moi d'abord. Pourquoi laisser tes sentiments prendre le dessus après avoir su contrôler ta peur avec une telle maîtrise? Tu as déjà gagné la partie, Cabret.
La partie?
Oui, c'est un jeu d'enfant. Cette pyramide était un jouet autrefois. Un brillant et ingénieux jouet initiatique pour les enfants d'une race disparue et qui leur servait de révélateur. Ils découvraient ici leurs faiblesses et apprenaient à les dominer.
Et comment sais-tu tout cela?
C'est ici que je suis devenu maître.
Voilà, c'était La Galaxie de la Terreur, la sélection DVD de Manu, qui reviendra la semaine prochaine, probablement, avec un nouveau DVD et un nouveau film qui nous aura sorti des années 80.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, avant de nous quitter pour nous retrouver la semaine prochaine, on va faire un petit hommage. Elle aura joué dans une trentaine de films. On aura réalisé 3. Ronit Elkabetz est morte le 19 avril. L'actrice israélienne n'a jamais choisi des rôles faciles, hein, prostituée, travestie, droguée, attardée mentale, femme abandonnée. Sa voix était reconnaissable entre toutes. Alors, pour lui rendre un petit hommage, l'extrait de ce petit joyau de 2007, La visite de la fanfare, de Eran Kolirin, avec l'immense acteur. Alors, un acteur, je ne sais pas quelle nationalité il a, je pense qu'il est palestinien, Sasson Gabay. Et puis, donc, Ronit Elkabetz qui lui donnait la réplique. C'était l'histoire d'une fanfare de la police égyptienne qui se retrouve dans un petit village du désert israélien. Ronit Elkabetz y incarnait une patronne de café face, alors dans cet extrait, au chef de la fanfare. On se quitte avec ça.
So, what do you play in the orchestra? You play like in the army music, you know, like.
No, we are a traditional orchestra. We play classical Arab music.
What, like Kulthum, Farid?
Yes.
But why police needs to play Kulthum?
This is like asking why a man needs a soul.
أيام في حضني روح هنية شمسي صيف أبدية لمت أيامنا المنسية أيام خالدة والزمن غربته عسلية لو كنت حعيش مرة تانية ما كنتش هغير ولا ثانية أيام طيبة شعب حرية والخير اللي بينا مخللنا حياتنا حب وحنية أيام في حضني الروح هنية شمسي صيف أبدية لمت أيامنا المنسية
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.